Rebonjour à tous alors. Ça marche. Vous m'entendez bien? Ça va? Nickel. Alors ce matin, j'ai choisi un passage très connu, mais vous connaissez la Bible par cœur, c'est normal. Donc vous connaissez tous Luc 19, l'histoire de Zachée. C'est un message que j'ai déjà fait sur Zachée. J'ai déjà prêché sur Zachée, effectivement, ça fait quelque temps. Alors peut-être que la plupart n'ont pas entendu ce premier message, donc ils ne pourront pas faire la différence. Pour les autres, évidemment, vous avez pris des notes, donc vous savez exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Mais je suis tombé sur un commentaire qui a donné un éclairage qui m'a interpellé sur ce passage et un plan qui, on va dire, différent de ce que j'avais fait au départ. Alors ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait avant était mauvais, ça veut dire que la parole de Dieu peut parler de différentes façons et ce passage peut être appliqué également de différentes façons. Et dans ce commentaire, en fait, on voit la conversion de Zachée de notre plan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peintre très célèbre, Salvador Dali. Et en fait, ce peintre a peint le Christ souffrant, mais comme c'est vraiment quelqu'un de très extravagant, il l'a peint d'en haut. Et en fait, il montrait ce que voyait Dieu quand Jésus était crucifié sur la croix. Et ce passage, eh bien, c'est un peu ça. En fait, on voit la conversion du Zachée vue d'en haut et ce que ça provoque chez Dieu. Plutôt que de regarder Zachée dans un plan humain, ce qui s'est passé pour Zachée, comment il a été appelé par Jésus, etc. Ça, on va le voir également, mais c'est intégré dans la vue divine, d'en haut. Et on va voir, on va lire déjà le passage. Donc, Luc 19, du verset 1 au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous ouvrons ta parole, Seigneur. Cette parole si importante pour nous, Seigneur, puisque c'est notre boussole, c'est la parole que tu nous as laissée, Seigneur, pour nous guider vers toi, pour nous guider vers ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Nous te glorifions parce que c'est une parole infaillible, Seigneur, et ce que tu désires, c'est que nous nous nourrissions de ta parole, parce que, Seigneur, c'est la vérité. Aussi ce matin, nous voulons être humbles devant toi et entendre de ta part ce que tu as à nous dire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc le passage que nous venons de lire illustre bien la définition et le titre du message que j'ai pris. Alors le titre du message, c'est « Un cas désespéré ». Nous avons d'ailleurs une grande facilité en tant qu'homme à ranger beaucoup de monde dans cette catégorie des cas désespérés. En tant que chrétien, notre désir est de parler du Seigneur à ceux qui nous entourent. On est bien d'accord. et à ceux qui ne le connaissent pas encore. Pourtant, nous avons, reconnaissons-le quand même, plus de difficultés à parler en présence d'une personne appartenant à cette catégorie. Et nous nous trouvons même une foule d'excuses toutes meilleures les unes que les autres. Alors il ne m'écoutera jamais. Il va se moquer de moi. C'est quelqu'un de mauvais, méchant et agressif même. Il va me mépriser, etc., etc., etc. On peut rajouter beaucoup de choses à cette liste et on est très doué pour ça. On doit le confesser devant le Seigneur. On a beaucoup plus de facilité à parler du Seigneur à quelqu'un qui a une oreille attentive, avec un large sourire, et on se dit, oh, celui-là, ça va être facile. Le Seigneur va le convertir de suite. Ouais, mais ça ne marche pas toujours. Pourtant, ces personnes, les cas désespérés, j'entends, ont aussi besoin de connaître le Seigneur. Et si nous ne leur parlons pas nous-mêmes, qui va le faire à notre place ? Devant Dieu, tous les hommes sont des cas désespérés, quelque part. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut le lire dans Romains 3, 23. Si un jour un chrétien n'était pas venu me parler à moi, ben je serais resté certainement dans cette catégorie, puisque moi aussi j'étais un cas désespéré. Mais je ne me sens pas trop seul, parce que je pense qu'ici, tout le monde, nous étions à peu près des cas désespérés. Mais comme dit un humoriste connu, mais il y en a qui sont des cas plus désespérés que d'autres. C'est vrai. Et c'est cela auquel nous avons plus de mal à parler. La Bible regorge de cas désespérés. Je vais prendre quelques exemples et vous allez voir, ce sont quand même des gens très connus dans la Bible. Moïse était un cas désespéré. Ah si, si, si. C'était un cas désespéré. C'était un meurtrier, fugitif, banni d'Égypte, en fuite. Et pourtant, on sait ce qui est advenu de Moïse. L'apôtre Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. J'ai rien contre les collecteurs d'impôts actuels, hein. Mais avant, ils étaient assez mal vus. Et on en reparlera tout à l'heure pour Zachée, puisque c'était lui-même un collecteur d'impôts. La femme samaritaine, vous connaissez tous son histoire. C'était une femme 5 fois adultère. Elle avait 5 maris. Elle a la santé. C'est sûr, avec 1, c'est beaucoup. Mais avec 5, alors, dur, dur. Le démoniaque qui avait la Légion, vous vous souvenez, il était possédé de centaines de démons. On ne pouvait plus rien faire pour lui, le pauvre. Il était dans les sépulcres. Et il se taillait avec des cailloux. Il était complètement fou, le pauvre. C'était un cas désespéré au plus haut point. Même le brigand sur la croix, souvenez-vous, qui était crucifié à côté de Jésus. Bah, il était condamné pour ses crimes, donc il était bien là où il était, quelque part. Et pourtant, on sait ce qui est advenu de lui. Notons donc que tous ces hommes et femmes ont connu et reconnu leur Seigneur, malgré leur appartenance sans équivoque à cette catégorie. Vous voyez, et il y en a d'autres, hein. Je ne les ai pas tous relevés, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Hein, des cas désespérés dans la Bible. Dieu a pris un soin tout particulier à parler à ces hommes et à cette femme. C'est vrai, Moïse a entendu parler Dieu à travers le buisson ardent, effectivement. Matthieu a été appelé personnellement par Jésus afin qu'il le suive. La femme samaritaine a rencontré Jésus en chair et en os au puits de Jacob. Le brigand sur la croix, lui, ben, il était à côté de lui et il a rencontré Jésus. Également, il a été invité au dernier moment de sa vie à entrer dans le royaume des cieux. Il n'est jamais trop tard, la preuve. Si quelqu'un vous dit qu'il est trop tard pour lui, il est complètement désespéré, ce n'est pas vrai. Tout est possible à Dieu à ce niveau-là. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu éprouve un grand plaisir et une grande joie quand l'un de ses cas désespérés se tourne vers lui. Pourquoi ? Car Dieu se plaît à changer les cœurs les plus endurcis afin de faire éclater sa puissance et sa gloire et sa miséricorde surtout. Plus le cœur est endurci, plus Dieu est glorifié et plus sa miséricorde est grande. Dans Luc 15, versets 6 à 7, on peut lire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. » N'est-ce pas ? Alors, j'ai divisé le message en trois parties. Ce qu'il faut être clair quand même. La première partie, donc, je l'ai intitulée « L'appartenance de Zachée à la catégorie des cas désespérés ». Parce qu'il faut bien qu'on parle de cette catégorie. Et si Zachée n'en fait pas partie, donc dans ce cas-là, c'est différent. La partie numéro 2, ça sera l'attitude de Zachée. Comment il a réagi. Et la partie numéro 3, l'attitude de Jésus. Alors après, il y aura la conclusion, comme d'habitude. OK ? Donc voilà, il faut que ce soit clair dans vos esprits. L'appartenance de Zachée à cette catégorie des cas désespérés, l'attitude de Zachée face à Jésus et l'attitude de Jésus face à Zachée. Il y en a une dernière qui est le salut de Zachée, c'est-à-dire le résultat de toute cette affaire et de ce récit. Donc l'appartenance de Zachée à cette catégorie des cas désespérés, eh bien, notre personnage principal, déjà, il n'apparaît qu'une fois dans la Bible, dans l'Évangile. Et qui est cet homme ? Alors son nom, Zachée, déjà, on va le situer. En hébreu, ça veut dire pur. Ouais. Nous allons voir que ce n'était pas vraiment très adapté à la personnalité de notre homme. Sauf si son nom lui a été donné par anticipation de sa conversion, peut-être. Pourquoi pas ? Le passage nous révèle qu'il est publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, mis en place par les Romains. Ça s'annonce mal chez les Juifs, déjà. Ouais. Son joli nom en grec, c'est Architélonès, pour ceux qui prennent des notes. Très joli, c'est chantant. Ça veut dire littéralement collecteur de taxes. Collecteur de taxes. Ça alors. Il y en avait, oui. Le passage nous donne une indication supplémentaire, au cas où ça aurait été pas suffisant, quant à la position de Zachée. Il est chef des publicains, en plus. Il cumule. Ouais. Alors, pour vous donner quelques indications au niveau des publicains, les publicains à cette époque étaient haïs par les juifs, qui les considéraient comme des collaborateurs à la solde des Romains. Et ces publicains étaient réputés pour leur corruption. Ils n'étaient pas loin de la vérité de toute façon. Effectivement, le passage nous dit que Zachée était un homme riche, ayant amassé sa fortune sans nul doute en volant le peuple juif. Et accessoirement, le peuple romain aussi, d'ailleurs, puisqu'il s'en mettait des deux poches. Ils récoltaient les taxes, ils en donnaient une petite partie aux Romains, et ils se gardaient tout le reste pour eux. Voilà donc, en quelques mots, le portrait de notre personnage principal. Effectivement, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, il fait bien partie de cette catégorie, cette caste même des cas désespérés, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et si Zachée était un de nos collègues de travail, on aurait peut-être quelques réticences à lui parler du Seigneur. Après tout ce qu'on vient de voir, si vous avez votre percepteur qui vient faire un contrôle chez vous, je sais, vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de souci, tout est nickel dans vos comptes et dans votre déclaration d'impôt. Mais on ne sait jamais, vous savez, ces gens-là, ils trouvent toujours une faille quelque part. Alors, peut-être qu'on ne serait pas très, très engageant, peut-être qu'on serait méfiant même, et qu'on hésiterait certainement à lui parler du Seigneur, peut-être. Voire même à le côtoyer dans la vie courante. Ou alors, on peut se laisser diriger par Dieu et dans la prière, afin de trouver une occasion favorable de témoignage. C'est la clé. Parce que nous, on ne peut pas faire grand-chose sans le Seigneur. Voilà donc notre cas désespéré numéro un, notre pauvre Zachée. Et effectivement, il fait bien partie de cette catégorie, donc on peut continuer. L'attitude de Zachée dans ce passage est éclatante, moi je trouve. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Déjà, il cherche à voir Jésus. Bon. Donc, certainement, il ne l'a jamais vu. Il a entendu, certainement, par contre, parler de lui. Parce qu'à cette époque, tout le monde était au courant, ou presque, de qui était Jésus, de tous les miracles qu'il avait accomplis. Il a aussi certainement entendu parler de son enseignement. Mais en tant que publicain, en tant que chef des publicains, et en tant qu'homme riche, je pense que ça ne l'a jamais réellement intéressé. Il est riche, il est puissant, il n'a certainement pas besoin de Dieu, ce Zachée. Pourtant, il est curieux de mettre un visage sur cet homme si mystérieux. Un faiseur de miracles, on n'en voit pas tous les jours. S'il passait dans la rue aujourd'hui, je pense qu'on irait voir. En tout cas, moi j'irais. Je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il lui manque l'essentiel. Je pense. Et que Jésus peut le lui apporter. Mais ça, c'est vraiment au fond de lui, dans les chaussures. Zachée fait preuve d'une grande motivation quand même pour voir Jésus. Malgré sa position d'homme riche, il accepte de monter sur un sycomore. On est compte, il ne grimpe pas dans l'arbre. Et non seulement cela, mais en plus, il court en avant pour monter sur le sycomore qu'il avait choisi pour ne pas rater le passage de Jésus. Alors pourquoi il veut monter sur un sycomore? Ils nous ont dit qu'il était de petite taille. Oui, il y en a. Non seulement il était de petite taille, mais en plus il était haï des Juifs. Imaginez, pardon, vous pouvez me laisser passer devant. Il aurait toujours pu essayer, mais il n'a même pas essayé. Il savait quel serait le résultat de ses demandes. Ça serait non, voire un petit coup par là. Donc il n'a pas cherché à se frayer un passage. Mais, un homme intelligent, malgré tout, il s'est dit, si je peux monter sur un perchoir, peut-être que je pourrais le voir malgré tout. Et c'est ce qu'il a fait. À ce moment-là, quelque chose va se passer qui va contribuer à ouvrir le cœur de Zachée. En effet, du haut de son arbre, je ne vais pas continuer son arbre perché. Zachée entend Jésus lui adresser la parole à lui tout seul. Il y a la foule partout, des milliers de personnes. Donc certainement un bon bois qui sont venus là pour voir Jésus. Et malgré tout, Zachée, il est sur son arbre et il entend Jésus lui dire... Oui. Donc Jésus, il n'a pas murmuré à Zachée quelque chose. Il a dû le lui crier, certainement, pour que Zachée puisse entendre. Comment se fait-il, se dit Zachée, qu'il s'adresse à moi qui suis un pécheur, haï même des Juifs. Et d'ailleurs, déjà, comment il connaît mon nom? Gros point d'interrogation. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Je ne pense pas que quelqu'un lui ait parlé de moi. Et en plus, il veut venir souper chez moi. Il est fou, il doit être fou, parce qu'il lui crie qu'il veut manger chez le publicain, le chef du publicain, un collecteur d'impôts, haï, au milieu d'une foule de Juifs. Mais il va se faire lyncher. Mais, pourtant, il lui parle. Alors, on en passe à la troisième partie de notre récit, l'attitude de Jésus. Et c'est là qu'on va comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cœur de Zachée. Jésus, donc, est fatigué, par son voyage à pied. Vous savez qu'à ce moment-là, les voitures, il n'y en avait pas. Éventuellement un âne, si on était suffisamment riche, mais Jésus, lui, c'est un fils de charpentier, des sous, il n'en avait pas beaucoup, et il marchait à pied avec ses disciples, dans la poussière. Et donc il était fatigué du voyage quand même. Il entre à Jéricho. Mais en arrivant dans cette ville, déjà il est attentif à la foule. Il est attentif aux malheureux qui ont besoin de guérison, comme Bartimée, puisqu'il l'a guéri juste avant de rencontrer Zachée. Donc l'attitude de Jésus est toujours tournée vers les autres. Matthieu 9, 36 nous dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Jésus, lui, quand il arrive dans une ville, il ne s'embarrasse pas de quoi que ce soit. Il cherche des âmes. Dans Marc 1, 38, il nous a dit « Alors, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il ne passe pas dans les villes pour faire du tourisme. Non, il cherche des âmes. Jésus connaît Zachée. Comment, on ne sait pas, mais Jésus sait tout. Il savait par avance que Zachée était là. Il savait que Zachée avait besoin de lui. Et il connaît l'état de son cœur surtout. Au lieu de le rejeter comme les autres, et comme la foule qui entoure là tout le monde, il fait preuve déjà, premièrement, de compassion envers Zachée. Il lui témoigne même de l'amitié, comme s'il le connaissait depuis longtemps. On ne s'invite pas comme ça du premier coup chez quelqu'un qu'on ne connaît pas en général. Vous allez dans la rue, vous allez héler le premier passant qui passe, dit « Un tel, il faut que je soupe ce soir chez toi. » Je suis sûr que vous serez bien reçu. Si, si. Et pourtant, c'est ce que fait Jésus. Il a osé s'inviter chez quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Bon, il l'appelle déjà par son nom. Donc, quelque part, il doit le connaître. Et si Jésus était passé sans parler à Zachée, celui-ci aurait vu Jésus certainement de son perchoir là-haut, ça il l'aurait vu, mais il n'aurait certainement jamais connu personnellement. Il s'adresse personnellement à lui. Et il l'invite à descendre de sa position élevée afin de le rejoindre. Il veut même rentrer dans sa maison, souper avec lui, comme on vient de le dire, comme chez un vieil ami. Jésus, donc, abolit la distance entre lui et Zachée. Parce qu'il devait y en avoir une, de distance. Autant il y avait de la distance entre Zachée et les Juifs, il était rejeté, autant Jésus était un Juif également. Et donc, pour Zachée, il y avait une distance entre Jésus et lui. Donc Jésus abolit cette distance parce qu'il sait que Zachée ne pourra pas le faire. Donc il fait lui le premier pas. Si Jésus était passé, donc on l'a dit, sans lui adresser la parole, Zachée serait resté sur sa faim. Donc l'attitude de Jésus est bien un exemple pour nous-mêmes dans ce passage. Alors, nous sommes souvent fatigués. Je le vois, il y en a qui dorment déjà. Si, si. Mais oui, mais bon, ça arrive, hein. Même moi, ça m'arrive. N'ayez pas honte. On est souvent fatigué, ça apporte beaucoup de choses, le travail, les enfants, les soucis de tous les jours, etc. Hein. Et pourtant, Dieu nous demande d'être toujours prêt à témoigner de lui, quelles que soient les circonstances. Tissons donc des liens d'amitié avec nos collègues de travail, nos voisins. Prenons le temps nécessaire, car Dieu veut que nous utilisions ce qu'il nous a donné pour parler de lui, pour parler de lui à ceux qui nous apparaissent comme des cas désespérés certaines fois. C'est notre attitude et la prière qui vont faire la différence. Ce n'est pas nous. On peut avoir beaucoup de dons. On peut être très affable, très amical, et n'avoir aucun impact sur les gens qui nous entourent. Si auparavant, ce n'est pas Jésus qui nous envoie, ben, y a rien qui va se passer. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. La quatrième partie de notre message ce matin, c'est le salut de Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé ? N'oublions pas que Zachée fait partie de la catégorie des cas désespérés. Hein, on l'a vu dès le départ. Et ça, on ne peut pas en douter. Nous avons laissé Zachée donc sur son arbre perché et complètement abasourdi par le fait que Jésus s'adresse à lui, personnellement, en l'appelant par son nom. Jusque-là, tout va bien. Lui, le méprisé, est appelé par Jésus, l'homme en vue du moment, connu de tous comme un prophète, hein, jusqu'à présent, et un faiseur de miracles extraordinaires. Alors, c'est un prophète pour la foule, mais vous savez ce que vaut la foule. Un coup, c'est un prophète, un coup, il faut le crucifier. Et c'est ce qui va se passer avec Jésus. Un coup, on l'acclame à l'entrée de Jérusalem, et quelques jours après, comme on l'a vu pour la table du Seigneur, on crie « Crucifie-le » à la place de Barabbas, dans la foule. Évitons. Évitons de nous mélanger à la foule. Que s'est-il passé dans son cœur à ce moment-là ? Eh bien, la suite du passage démontre que l'attitude de Jésus envers Zachée a fait réellement la différence. Le rejeté est devenu subitement, déjà, l'objet de l'attention du Sauveur. Et le cœur de Zachée a été touché profondément à ce moment-là. L'attitude d'amour de Jésus a fait fondre le cœur de Pierre de Zachée et tout ce qu'il avait pris soin de cacher est sorti à la pleine lumière à ce moment-là. Tout est devenu clair pour lui. Il avait trouvé enfin celui qui seul était capable de le sauver et de le changer en une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, 17. Et c'est ce qui est arrivé à Zachée. La chose qui paraissait la plus improbable aux yeux de tous se produit alors. Par la puissance de l'amour de Jésus, démontré par son attitude envers Zachée, c'était tangible. Celui-ci abandonne son ancienne vie, en premier, c'était pas rien quand même. Il se repent de toutes ses fautes. Il accepte de réparer dans la mesure de ses possibilités tout le mal qu'il a fait. Et ainsi, il intègre une nouvelle catégorie, la catégorie des cas désespérés, sauvés par Jésus-Christ. Et la catégorie est très grande. Jésus, en effet, ne peut pas sauver quelqu'un qui ne se reconnaît pas pécheur. Et c'est ce qui est arrivé à Zachée. Il avait certainement conscience de son péché, mais il ne voulait pas le reconnaître. Mais à ce moment-là, face à son Sauveur, il n'a pas pu résister. Jésus ne peut pas non plus sauver quelqu'un qui pense pouvoir se sauver lui-même, etc. Ça, vous le savez. Voilà l'histoire de notre Zachée vue d'en haut, en quelque sorte. Parce que n'oubliez pas que Jésus est venu à Jéricho exprès pour rencontrer Zachée. Il est venu parce que il voulait rencontrer cet homme. Il voulait réellement le sauver parce que c'était un cas désespéré. Et parce que Jésus aime les causes perdues. Voilà en quelques mots donc l'histoire extraordinaire de notre ami Zachée. Jésus a eu une grande joie à appeler Zachée. Il l'a traité comme un ami. Il ne l'a pas jugé. Il s'est mis à sa portée. Il a fait même le premier pas vers lui. Il est passé dans cette rue bondée de monde tout particulièrement pour lui. Il a affronté le jugement de la foule, n'oubliez pas, il a crié à Zachée, que tout le monde connaissait, par amour pour Zachée, car cet homme était perdu, mais Jésus voyait plus loin que le commun des mortels, parce que lui, il regarde au cœur. Et il voyait le cœur de Zachée, qui avait besoin, qui était en recherche certainement. La leçon que nous pouvons tirer de ce récit, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme, lui. Il n'a pas de préjugés. Son désir et sa joie la plus grande, c'est de voir venir à lui le plus vil des pécheurs pour avoir la vie. Il ne met personne dehors, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, nous dit la fin de notre passage. Alors, comme Jésus, sommes-nous prêts à affronter le jugement des autres? Sommes-nous prêts à faire le premier pas vers ceux que tout le monde rejette, que nous-mêmes, en tant que chrétiens, certaines fois, avons tendance à rejeter, car faisant partie de ces cas désespérés? Sommes-nous prêts à payer le prix pour parler de lui aux perdus, quitte à être rejetés, moqués, calomniés par ceux-mêmes auxquels nous voulons parler du Seigneur, certaines fois? Ça nous arrive et ça nous arrivera encore. Sommes-nous prêts à voir aussi le miracle de Dieu se réaliser dans le cœur de ces hommes et de ces femmes et à nous réjouir avec le Seigneur de ce que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors on peut se poser toutes ces questions, on peut se remettre en cause. On aime le Seigneur, on veut parler de lui, c'est pas toujours facile. Nous le savons. Nous avons de l'expérience. Mais par la prière et avec la force de Dieu, on peut y arriver. On peut éviter de rejeter ces cas désespérés, loin de nous, parce qu'on a peur d'eux, finalement. Quand on regarde bien, c'est ce qui nous sépare d'eux. C'est la peur de leur réaction. Mais Dieu est plus fort que leur réaction. Et c'est par lui que nous pouvons changer ces gens. C'est par lui que nous pouvons faire la différence, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais par la prière et par le Saint-Esprit qui est en nous, alors tout peut changer dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Prions. Seigneur, c'est vrai, nous avons tendance souvent à nous cantonner, à parler de toi à des gens bien disposés à t'écouter et à nous écouter. Mais Seigneur, toi, tu prends plaisir et tu as une grande joie à voir venir vers toi tous ces cas désespérés qui nous entourent, dont nous faisions partie auparavant, Seigneur. Aussi, nous voulons te dire que nous voulons prendre parti pour toi, Seigneur, et que nous voulons également aller et parler de toi dans les occasions favorables, mais aussi dans les occasions défavorables. Quand tout semble perdu, Seigneur, c'est toi qui prends le relais et c'est toi qui changes les cœurs. Et nous voulons te remercier et te glorifier pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.